Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless pour vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme, on va revenir sur les résultats des élections des Français de l'étranger. Les résultats ont été dévoilés hier par la consul générale de France à Sydney. On va aussi s'entretenir avec le chef Guillaume Brahimi. Il a ouvert il y a 10 ans la première brasserie parisienne à Melbourne. Et puis, comme tous les mardis, on irait voir ce qui s'est passé ces derniers jours en France, mais aussi sur les terrains de sport. Mais tout de suite, place à l'actualité, c'est l'heure du journal. Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 1er juin 2021. 9 nouveaux cas de Covid recensés dans l'état du Victoria, qui en est à son 5e jour de confinement. Les États-Unis, à nouveau au cœur du scandale, ils sont accusés d'avoir écouté certains dirigeants européens avec la complicité du Danemark. Le président français Emmanuel Macron dénonce un comportement inacceptable. Et il y a quelques jours, un Chinois aveugle a réussi l'exploit de gravir le toit du monde, le mont Everest. On reviendra sur cette incroyable histoire en fin de journal. Confinement jour 5 dans l'état du Victoria où les autorités viennent d'annoncer avoir détecté donc 9 nouveaux cas de transmission communautaire du Covid, ce qui porte le nombre total de cas actifs liés à ce nouveau foyer épidémique à 54. Alors ce confinement, est-ce qu'il sera prolongé? C'est trop tôt pour le dire, d'après James Merlino, le premier ministre par intérim du Victoria. Brett Sutton, pour sa part, le médecin-chef de l'État, n'a lui pas exclu le retour de ce qu'il appelle l'anneau d'acier, c'est-à-dire des restrictions qui ne s'appliqueraient qu'à l'agglomération de Melbourne. Et parmi ces 54 cas actifs de Covid dans le Victoria, 4 sont liés à des maisons de retraite, 2 employés d'EHPAD, un résident et le fils d'un employé, a précisé Richard Colbeck, le ministre chargé des retraités. De son côté, le gouvernement Morrison étudie la possibilité de rendre obligatoire la vaccination contre le Covid pour tous les employés d'EHPAD, une mesure qui jusqu'à présent n'avait pas été prise en raison d'un manque d'informations d'après le même Richard Colbeck. Il s'en est expliqué sur le Channel 7.
It's a significant logistical exercise, and the reason it wasn't made mandatory is because we didn't understand whether the vaccines would prevent transmission or not. We understand more about that now. We were always going to reconsider the advice as we learnt more about the vaccine, how it worked. But we know that it doesn't prevent you from catching COVID-19. We know that for a fact. We know that it doesn't prevent transmission.
Encore un mot sur le coronavirus pour parler de la satisfaction du directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus. Ce dernier s'est félicité de l'adoption par plusieurs États membres de résolutions visant à la signature d'un traité international sur les pandémies. Alors que la gestion du Covid a pu beaucoup varier d'un pays à l'autre, certains adoptant la stratégie zéro Covid, d'autres décidant de vivre avec, le docteur Tedros estime qu'un engagement générationnel allant au-delà des cycles politiques et financiers permettra à l'avenir de répondre plus efficacement à de futures pandémies.
At present, pathogens have greater power than WHO. They are emerging more frequently in a planet out of balance. The defining characteristic of the pandemic is the lack of sharing of data, information, pathogens, technologies, and resources. These are the challenges we are facing, we have been facing since the pandemic started and even before.
Et précisons à ce sujet que les 194 États membres de l'OMS se réuniront au mois de novembre pour entamer les négociations liées à la signature de ce traité. Un bilan contrasté, c'est ainsi qu'Angus Campbell, le chef de l'armée australienne, a décrit la présence en Afghanistan des troupes australiennes devant un comité sénatorial. les troupes qui doivent définitivement se retirer de ce pays plus tard cette année, après y avoir été engagées pendant près de 20 ans aux côtés des États-Unis. Alors dans le détail, Angus Campbell estime que grâce à cette intervention au cours de laquelle 41 soldats australiens ont perdu la vie, des attaques terroristes ont pu être évitées. Et cette présence militaire, elle a aussi favorisé le retour à une certaine sécurité, une certaine stabilité en Afghanistan. Mais l'armée australienne en Afghanistan, c'est aussi des accusations de crimes de guerre visant des membres des SAS, les troupes d'élite de l'armée australienne. D'après un rapport paru il y a quelques mois, au moins 25 civils ont été assassinés par des soldats australiens, parmi lesquels des enfants. Économie maintenant, dans le cadre de la loi qui vise à rééquilibrer les relations entre les médias d'un côté et les GAFA de l'autre, un nouvel accord vient d'être trouvé. Le groupe Nine Entertainment, qui édite entre autres le Sydney Morning Herald ou The Edge à Melbourne, vient de signer des accords avec Google et Facebook sur l'utilisation de ses contenus, ses articles, ses vidéos, etc. sur ces deux plateformes. Alors le montant précis de cet accord n'a pas été dévoilé, mais on estime qu'il porte sur plusieurs centaines de millions de dollars qui seront versés donc au groupe Nine chaque année par les deux géants du net, et ce afin de soutenir ses activités journalistiques. Des accords du même type ont déjà été signés ces derniers mois avec le groupe News Corp Australia ainsi qu'avec le groupe Seven West Media. Les États-Unis, de nouveau accusés d'avoir écouté plusieurs dirigeants européens, et ce, avec la complicité du Danemark. C'est la télévision publique danoise qui l'a révélé. Parmi les victimes de ces écoutes, il y aurait l'Allemagne et la France notamment. Des révélations qui ont fait réagir Emmanuel Macron et Angela Merkel lors d'une conférence de presse conjointe qui se tenait à Berlin. Mais les deux dirigeants se sont exprimés en revanche en des termes très différents. Analyse depuis Berlin de Pascal Thibault pour RFI.
Emmanuel Macron et Angela Merkel attendent des explications de leurs alliés américains et danois, mais les formulations des deux responsables diffèrent entre un président français très résolu et offensif et une chancelière allemande cherchant visiblement à ne pas jeter de l'huile sur le feu. Emmanuel Macron.
Ce n'est pas acceptable entre alliés, encore moins entre alliés et partenaires européens. Nous avons demandé à ce que nos partenaires danois et américains apportent toutes les informations sur ces révélations et sur ces faits passés, et surtout apporter toute la clarté sur les pratiques présentes.
Angela Merkel, comme lors des révélations dans le passé sur les écoutes de la NSA, son propre portable était concerné, fait à nouveau profil bas, soucieuse de ne pas heurter l'allié américain. Pourtant, les révélations de différents médias européens ont donné des détails plus concrets sur les victimes de ces pratiques en Allemagne. À nouveau, la chancelière était concernée, ainsi que le candidat social-démocrate à la chancellerie en 2013, Peer Steinbrück, et l'actuel président de la République, Steinmeier. Angela Merkel s'est contentée de préciser qu'elle avait été rassurée par les déclarations de la ministre de la Défense danoise, qui a estimé que l'espionnage systématique par des alliés est inacceptable.
C'est une bonne base, non seulement pour clarifier les faits, mais aussi pour établir des relations de confiance.
Après les révélations sur des écoutes similaires, en 2013, l'Allemagne avait lancé des discussions pour éviter à l'avenir de telles pratiques entre pays européens. Des informations 2 ans plus tard sur les grandes oreilles des services allemands avaient mis fin aux négociations. Pascal Thibault, Berlin RFI.
États-Unis, une cérémonie hier, une cérémonie interconfessionnelle s'est tenue dans la ville de Tulsa, dans l'état de l'Oklahoma, où il y a tout juste 100 ans s'est déroulé l'un des massacres à caractère raciste les plus sanglants de l'histoire de ce pays. Une église en 1921 située dans un quartier noir, Greenwood, avait été incendiée par une milice raciste, un incendie dans lequel au moins 300 personnes avaient péri. Cette église, depuis, elle a été reconstruite. C'est d'ailleurs devant celle-ci qu'a eu lieu ce rassemblement. Et le révérend de cette église, William Barber, a dit à la foule que ce massacre ne serait jamais oublié.
The blood can't rest. You can't cover over the blood by trying to make a tourist event out of a tragedy. You can't cover over the blood and talk about reconciliation when there's been no conciliation. So when we see this wall is not for us to remember the fights they fought. The wall is to give us the courage to fight the fights we still have to fight to deal with economic justice, to deal with voter suppression.
Des bruits de bottes venus de Russie, dont l'armée vient d'annoncer la construction de 20 nouveaux corps d'armée d'ici la fin de l'année pour répondre, d'après cette dernière, à la menace grandissante que représenterait l'OTAN. Le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, estime que de plus en plus de bombardiers américains volent à proximité immédiate des frontières russes. tandis que des exercices militaires menés par d'autres nations coalisées se multiplient.
The actions of our Western colleagues destroy the international security system and force us to take the relevant countermeasures. We are constantly improving the operating strength of our forces, and by the year's end, we will form another 20 units and formations in the Western Military District.
L'OTAN, pour sa part, organisation du traité de l'Atlantique Nord, a décidé de restreindre l'accès de son quartier général aux officiels biélorusses, une décision qui fait suite au détournement par Minsk d'un vol commercial pour arrêter un journaliste qui se trouvait à bord et qui est opposé au régime. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a précisé que 5 officiels biélorusses étaient concernés.
We are constantly assessing security measures here at NATO, and we have decided to restrict the access of Belarusian personnel to the NATO headquarters based on our assessment of security measures at the headquarters.
La Chine vient d'annoncer qu'elle autorisait les familles à avoir jusqu'à 3 enfants. Une annonce qui intervient quelques jours après la publication du dernier recensement décennal, recensement qui révèle une baisse de la natalité dans l'Empire du Milieu. Et ce alors pourtant qu'il y a 5 ans, la Chine avait officiellement mis fin à la politique de l'enfant unique permettant aux couples d'avoir jusqu'à 2 enfants. Mais visiblement, cette mesure n'a pas permis d'enrayer le vieillissement de la population. Élément d'explication avec le sinologue Jean-Philippe Béja.
Dans les villes, par exemple, la plupart des jeunes ne veulent pas avoir plus d'un enfant, étant donné le coût extraordinaire de l'éducation d'un enfant. Et le logement, qui devient bien sûr de plus en plus exigu, comme partout. D'autre part, rappelons-nous aussi, c'est peut-être un élément psychologique auquel personne n'avait pensé, c'est que on a affaire à une génération d'enfants uniques, en tout cas dans les villes, et que, au fond, ils n'ont pas tellement envie d'avoir plusieurs enfants, et ils n'ont pas cette habitude. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent que la non-reprise de la natalité et le fait que la Chine est un pays de moins en moins rural, hein, puisqu'on a vu que le dernier recensement donnait 60% d'urbains. Alors, est-ce que le Politburo va faire des primes pour le troisième enfant? Pas partout, en tout cas sûrement pas au Xinjiang ou au Tibet, puisqu'on a des politiques différentes dans les zones de minorité nationale. D'autre part, on préférerait avoir évidemment des citadins qui auront un bon niveau, ce qu'on appelle Suzhuhao, une bonne qualité dans les villes, et on n'est pas très chaud pour avoir une très très forte population dans les campagnes qu'on aura du mal à éduquer.
Et c'était donc le spécialiste de la Chine, Jean-Philippe Béja, interrogé par nos confrères de Radio France Internationale. Un nouvel exploit vient d'être accompli sur le mont Everest. Le chinois Zhang Hu est devenu il y a quelques jours, le premier aveugle asiatique à atteindre le toit du monde, qui pour rappel culmine à 8840 mètres. Depuis Pékin, le récit du correspondant permanent de RFI, Stéphane Lagarde.
Après l'Américain Eric Wenner-Mayer en 2001 et l'Autrichien Andy Holzer il y a 4 ans, Zhang Rong est le troisième grimpeur à réussir cet incroyable exploit, atteindre le toit du monde, les yeux fermés. Une montagne de difficultés, mais une motivation à toute épreuve.
Il y a les glaciers et les murs de glace qui sont particulièrement difficiles pour les malvoyants et tout un tas d'autres dangers. À chaque pas, il faut être prudent et j'avais besoin de mes guides pour avancer. Cela n'a pas empêché que je perde de nombreuses fois l'équilibre parce que je ne voyais pas. Je suis tombé un nombre incalculable de fois.
Aidé par 3 Sherpas népalais et un ami guide, Zhang Rong arrive à Katmandou vacciné. Début avril, 14 jours de quarantaine, puis des semaines d'entraînement au camp de base, avant de parvenir au sommet le 24 mai dernier. Atteint d'un glaucome, Zhang Rong a perdu la vue à 21 ans. Comme la plupart des aveugles en Chine, il est devenu masseur. Il a aujourd'hui 2 messages à faire passer.
Face à l'immensité de la nature, face à la montagne, on se sent vraiment tout petit. C'est aussi une aventure intérieure qui nous oblige à respecter davantage l'environnement. Et puis, mon autre message, c'est de dire que, quel que soit votre handicap, vous pouvez vous dépasser et faire de grandes choses.
Et notamment se lancer dans le défi des 7 plus hauts sommets du monde et créer une fondation pour aider les Sherpas blessés lors des ascensions. Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Et pour clore ce bulletin, on jette maintenant un œil à la météo de ce mardi en Australie. 19 degrés à Perth, 20 à Adélaïde, 17 à Melbourne, 20 degrés à Sydney, 23 à Brisbane, 27 à Cairns et jusqu'à 31 degrés aujourd'hui à Darwin.
journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le tournoi de Roland-Garros avec la japonaise Naomi Osaka qui se retire du tournoi. Explication de Eric Mamrut pour Radio France Internationale.
Pour résumer l'affaire, on se rappelle que la japonaise avait créé la polémique vendredi dernier en annonçant qu'elle ne se soumettra à aucune conférence de presse lors de ce tournoi, drôle de décision, mais elle a expliqué en disant que souvent, ce genre d'exercice nuisait à sa santé mentale, elle qui est fragile, et d'ailleurs elle vient de le répéter dans un tweet expliquant sa décision. Elle est sensible, elle a été sujette par le passé à des moments de dépression, elle est très timide, elle n'aime pas s'exprimer, parler d'elle, et souvent elle ressent comme une petite agression certaines questions des journalistes. Et il faut dire que sa décision de ne pas se soumettre aux conférences de presse a créé plus de mal que de bien finalement, puisque ça a créé la colère chez les journalistes, chez les organisateurs qui l'ont menacé non seulement de lui mettre des amendes, comme c'est les règlements, mais aussi de l'exclure du tournoi. Résultat, aujourd'hui, elle dit qu'elle préfère quitter le tournoi pour aller chercher un peu plus de paix. En tout cas, c'est un événement, évidemment, sans doute sans précédent à Roland-Garros.
Il y a des spectateurs pour la première fois en 2 ans, comme nous l'explique Olivier Pron pour RFI.
Déjà, il fait beau. Les autres fois, moi, je suis venu, j'ai vu un match, ça a duré 1h30, après, ça a été reporté.
Le confinement, le couvre-feu, le Covid, là, on revit, le soleil, parfait. On ne peut pas demander mieux.
Aux Anges, Édouard et Juliette, ils font partie des élus, les 5000 spectateurs répartis en 6 zones, autorisés quotidiennement à assister au match. C'est 8 fois moins que d'habitude, mais bien plus que lors de la dernière édition. En octobre, en quasi huis clos, Mélanie en était avec sa doudoune.
L'an dernier, on a participé pendant l'automne, mais ça n'avait rien à voir. Les allées étaient vides, il n'y avait pas d'animation, là c'était vraiment mort. Et là aujourd'hui on retrouve un petit peu le Roland-Garros d'avant, donc ça fait du bien.
Ce qui leur fait du bien à ces passionnés, c'est aussi, soyons honnêtes, qu'il y ait moins de monde justement, Élodie et Philippe l'avouent, glace aux lèvres avant de courir après leurs enfants.
Ah bien sûr que c'est beaucoup mieux, non mais évidemment c'est beaucoup mieux, on fait pas la queue pendant 3 heures partout, c'est agréable.
Habituellement Roland-Garros c'est noir de monde, c'est même compliqué pour se déplacer, d'aller à un point B, et là le fait que ce soit plus aéré, c'est appréciable aussi.
Ok, donc tout est mieux, pas sûr que les organisateurs soient du même avis quand même. 120 000 spectateurs sur cette quinzaine, c'est loin des 500 000 habituels. Mais au fait, qui va gagner ?
Nadal.
Moi j'en ai marre, moi je veux que ça soit un Français. Cette année, un Français. Quel Français peut gagner cette année ?
Entre raison et déraison, en somme, rendez-vous dans 2 semaines.
Quelques résultats d'hier avec la victoire de Roger Federer contre Denis Istomin, l'Ouzbek, en 3 manches. On écoute Roger Federer.
Ça m'a fait plaisir que j'ai tout de suite bien débuté le match. Alors voilà, je sentais que j'ai vite contrôlé les choses, j'ai vite ressenti que je pouvais gagner le point de multiples façons. Et après, tu peux te prendre plaisir, tu peux monter au filet, tu peux faire un peu de serve volley, des amortis, prendre un peu de risque de temps en temps, garder les balles courtes ou tu veux rallonger les rallyes. Bah, je peux vraiment tout choisir. Alors c'est pour ça, je pense que l'adversaire c'était sorte idéal pour un premier tour. Je sais que le deuxième ça va être complètement autre chose. Ça fait du bien de gagner de nouveau parce que pour se rassurer, il faut gagner.
Jo-Wilfried Tsonga, le français, éliminé par Nishioka, le japonais, en 4 manches. Alizé Cornet, battue par sa compatriote Harmony Tan en 2 manches. Caroline Garcia se qualifie en 2 manches contre Laura Siegemund, l'allemande. Benoît Paire, éliminé en 4-7 après un beau combat. Enzo Cuoco, un Mauricien qui a pris la nationalité française, a gagné au premier tour dimanche. Eric Mamrut, RFI.
Enzo Cuoco, 26 ans, né à l'île Maurice. Premier match en Grand Chelem et première victoire pour le 177e mondial, bénéficiaire d'une invitation. Succès en 3-7 sur le Biélorusse Egor Gerasimov, 78e à l'ATP. Un grand moment qu'il a pu partager avec le public présent dans les tribunes, Enzo Cuoco.
C'était vraiment fantastique. C'est vrai que déjà d'une part de rejouer avec du public, ça nous avait manqué, je pense à tous. Et sur le circuit Challenger où j'ai voulu la plupart du temps, il y a vraiment, vraiment personne. Donc c'est vrai que l'ambiance était unique, était géniale. Dès le premier point du match, j'ai eu un peu des frissons partout, d'avoir des encouragements, d'avoir des chants, des cris. C'était vraiment génial comme moment. Et puis d'avoir pu faire la course en tête pendant tout le match, ça m'a un peu rassuré, ça m'a un peu enlevé du stress, on va dire. J'ai eu la chance de bien démarrer tout de suite et d'être dans mon match, d'être efficace. Donc, non, c'était vraiment un grand moment de bonheur. Ouais.
propos recueillis par Olivier Proenzo-Cuaco qui affrontera au deuxième tour l'Espagnol 12e mondial Pablo Carreño Busta.
Et puis la première night session de Roland-Garros a eu lieu hier soir avec la victoire de Serena Williams contre Camila Begu, la Roumaine. Dimanche, il y a eu cette grosse surprise, l'élimination de Dominic Thiem, l'Autrichien, par Pablo Andujar, l'Espagnol. On se jabeur, la Tunisienne se présente ce mardi, elle jouera contre Poutine Tseva, la Kazakh. On écoute On se jabeur avec Eric Mamrut pour RFI.
Là, je suis bien, je m'entraîne normalement, je fais tout sur le terrain, je dirais que je suis à 100% là.
Un mois et demi sans match, est-ce que ça va être préjudiciable pour votre tournoi ?
Ouais, écoute, j'ai joué beaucoup de matchs à Charleston, un peu à Madrid, donc je dirais que j'avais pas vraiment un manque de matchs. Juste maintenant, je fais beaucoup de points avec les joueuses pour reprendre un peu le rythme, mais ça va. Je suis vraiment contente de mon jeu, de la forme maintenant, et je pense que je serai prête pour mardi.
L'an dernier, vous aviez signé votre meilleur résultat ici à Paris avec un 8e de finale. Quel est votre objectif aujourd'hui ?
Déjà, match par match, et j'aimerais bien être dans la deuxième semaine. C'est un grand chelem que j'aime beaucoup. J'ai gagné ici en junior et je garde de très très beaux souvenirs. Donc j'aimerais bien vraiment bien jouer et aller le plus loin.
Depuis un an, avec la pandémie, on le sait, la vie sur le circuit est compliquée. Est-ce que vous pensez malgré tout avoir progressé durant cette période ?
Franchement, je suis revenue plus forte. J'ai même gardé la progression est bonne. Ça prend du temps avec moi, mais je sens que je suis sur la bonne voie. Je suis en train de faire de bons résultats et là, je suis à mon meilleur classement et je pense que ça va être de mieux en mieux.
Anse Jabeur, 26e joueuse mondiale, elle affrontera mardi au premier tour la Kazakh Yulia Putintseva, deux fois quart de finaliste à Roland-Garros par le passé, ça ne sera pas facile.
Giro d'Italia, l'édition 2021, remportée par Egan Bernal, le Colombien. Analyse de Pierre Carré, journaliste et auteur du livre Giro. Il est avec Thomas de Saint-Léger pour RFI.
La course la plus dure du monde dans le plus beau pays du monde, c'est votre définition du Giro. Et comme un bon Giro va aussi avec une belle histoire, ce mois de mai restera celui de la résurrection d'Egan Bernal, le Colombien qu'on avait laissé l'été dernier sur le Tour de France, avec un dos en vrac et des questions dans la tête. Aujourd'hui, il a les réponses. Hein.
Ah oui, il est revenu à son plus beau niveau, Egan Bernal. C'était un coureur très complet. Finalement, on peut dire que le meilleur a gagné. On ne peut jamais le prendre à défaut, que ce soit dans la montagne, que ce soit dans le contre-la-montre, que ce soit dans les descentes, mais aussi sur un moment certainement qui a marqué les esprits sur ce Tour d'Italie, à savoir des routes sans goudron, des routes blanches, comme on les appelle en Italie, avec de la poussière, des pierres concassées. Là-dessus, il se montrait tout aussi virtuose. Finalement, on peut dire que le meilleur a gagné. Et c'est vrai que à 24 ans, Egan Bernal peut encore gagner peut-être 1, 2, 3 grands tours. Mais vous savez, il semblerait que du côté de son équipe, le Team Ineos, on se dise qu'aujourd'hui, un coureur ne peut pas durer jusqu'à 30 ans. Donc finalement, il va falloir qu'il se dépêche de regagner, pourquoi pas, encore un Tour de France ou un Giro.
Et puis le critérium du Dauphiné libéré, c'est un warm-up avant le Tour de France. Et la deuxième étape, hier, a été remportée par l'Autrichien Lukas Postelberger. Un mot du Grand Prix d'Italie MotoGP, remporté par le Français Fabio Quartararo, une victoire qu'il a dédiée au Suisse Jason Dupasquier, âgé de 19 ans, décédé suite aux blessures après une chute lors des qualifications Moto3 du Grand Prix d'Italie. Voilà pour le journal des sports de ce mardi.
Et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne. Parce que je suis au seuil d'un amour éternel, je voudrais que mon cœur ne porte pas le deuil.
Et SBS, le programme en français, il est 13h29. On vient d'écouter le Dan Garibian Trio interpréter ce morceau qui s'intitule « Parce que ». Allez, maintenant, on va retrouver Jean-Noël Ducasse et Émile Matasso pour faire le point sur les actualités de la semaine en France.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour, Jean-Noël. Bonjour à tous.
À la une, la vaccination désormais ouverte à tous les adultes en France.
Oui, depuis ce lundi 31 mai, toutes les personnes de plus de 18 ans, sans restriction, sont éligibles au vaccin. Plus de limite d'âge, plus de public prioritaire en fonction de son état de santé, de sa profession plus ou moins exposée. Et cette étape est donc cruciale dans la lutte contre la propagation du virus. Au départ, le gouvernement pensait ouvrir la vaccination à tous les adultes le 15 juin. Finalement, l'exécutif le fait avec 15 jours d'avance. Depuis le début de la campagne de vaccination, fin décembre. Rappelons que l'accès au vaccin s'est fait par palier en fonction de l'âge. D'abord, les plus de 75 ans dans les maisons de retraite. Ensuite, on est descendu aux plus de 70 ans, etc., etc. Il y a eu ensuite la possibilité pour les plus jeunes qui souffraient de comorbidités, qui avaient des fragilités, de se faire vacciner. Mais là, plus de restrictions du tout. La catégorie des 18-49 ans, qui était encore en attente, peut elle aussi se faire vacciner. Alors, dans les faits, dans cette catégorie 18-49 ans, certains l'ont déjà fait. Il était possible de prendre un rendez-vous par-ci, par-là, pour le lendemain, quand des créneaux restaient disponibles. C'est là, néanmoins, que les plus jeunes vont devoir s'armer de patience. On l'ouvre à tout le monde, cette vaccination. Mais si désormais elle est possible pour tous les adultes, les doses sont là, les réserves de doses sont là. Il n'y a pas de pénurie ou de commandes qui n'arrivent pas comme au début de l'année. Mais malgré tout, il y a une logistique lourde pour obtenir un rendez-vous. Et donc les autorités sanitaires, le gouvernement invite les plus jeunes à s'armer un petit peu de patience. Dans l'absolu, si 25 millions, ce sont les chiffres actuels, 25 millions de Français ont déjà reçu au moins une dose de vaccin, et parmi ces 25 millions, près de 11 millions qui ont eu les deux doses, il reste potentiellement 28 millions d'adultes qui, eux, 28 millions d'adultes de plus de 18 ans, qui n'ont reçu aucune dose. 28 millions, cela fait encore beaucoup. Et c'est pour cela que le gouvernement ouvre dès maintenant la vaccination à tout le monde, car on sait qu'il y a des réticences encore sur le vaccin. Alors le vaccin AstraZeneca, notamment, qui ne peut pas être donné aux moins de 55 ans, à cause des risques même très faible de complications type thrombose, mais le gouvernement est très clair là-dessus, il est réservé aux personnes plus âgées, mais cela crée tout de même des réticences chez les plus de 55 ans, et le gouvernement veut aller très vite, car les réserves de vaccins sont là, AstraZeneca, mais aussi et surtout Pfizer et Moderna, et ce que redoutent les autorités, eh bien, c'est que la circulation du virus diminuant, on va y revenir, les chiffres s'améliorent, avec les vacances d'été qui vont arriver, juillet, août, les bars, les restaurants qui ont rouvert depuis 10 jours maintenant, eh bien, les personnes qui ne sont pas encore vaccinées, le risque, c'est qu'elles finissent finalement par se dire que le vaccin n'est peut-être pas si nécessaire et qu'elles finissent par y renoncer. Alors qu'en ce moment, il y a une vraie adhésion autour du vaccin, un engouement même, au sens où les Français veulent sortir de cette pandémie, et on se bouscule, entre guillemets, pour se faire vacciner. Le gouvernement veut profiter de cette dynamique pour en finir avec cette pandémie. L'opinion est prête à se faire vacciner, ce qui était loin d'être le cas, loin d'être acquis, il y a encore quelques mois.
Quels sont les chiffres de la pandémie actuellement en France, Émile ?
Oui, les indicateurs, les chiffres, ils s'améliorent, c'est indéniable. Ces derniers jours, on compte moins de 10 000 nouveaux cas positifs par jour, en moyenne, sur l'ensemble du territoire, et un nombre de décès qui diminue également, en moyenne, moins d'une centaine. On était, il n'y a pas si longtemps, à 200, 250, 300 décès par jour. Alors, de l'extérieur, pour des pays comme l'Australie, d'ailleurs, où le virus ne circule presque pas, peut paraître encore beaucoup, mais en France, on revient de très très loin. Il y a encore un mois et demi, on comptait 30 000, 40 000 nouveaux cas chaque jour. Là, la dynamique est à la baisse et on se rapproche finalement du seuil des 5 000 cas par jour que le président de la République Emmanuel Macron avait fixé à la fin de l'année dernière. Souvenons-nous, au départ, l'exécutif estimait qu'il fallait maintenir un confinement et des restrictions très strictes tant qu'on était au-dessus du seuil de 5000 contaminations par jour. Alors, dans les faits, les autorités ont vite déchanté, elles ont vite renoncé à cet objectif qui était difficilement atteignable. Au cœur de l'hiver, on était largement au-dessus et les Français n'en pouvaient plus du confinement. On a donc desserré la vis, mais il aura fallu des mois et des mois depuis octobre pour revenir dans ces eaux-là. On commence à s'en approcher. La pression est redescendue dans les hôpitaux, dans les services de réanimation. Sur les 7 derniers jours, 3500 personnes ont dû être hospitalisées en France pour Covid, dont plus de 600 en réanimation. Il faut rester prudent, mais avec la vaccination, on le disait, qui couvre désormais plus de 25 millions de personnes, au moins une dose, et qui va encore s'intensifier. On compte vacciner 500 000 personnes, 500 000 doses par jour en ce moment. Et dès lors que les vaccins sont efficaces, et c'est le cas, il semblerait même qu'ils résistent très bien aux variants, variants anglais, variants sud-africains, variants indiens. À partir de là, oui, l'horizon se dégage. La seule réserve avancée par les épidémiologistes, les scientifiques, c'est que pour atteindre la fameuse immunité collective, il faudra sans doute que non pas 50% ou 65% de la population soit vaccinée, comme on le disait il y a quelques mois, mais bien 80 à 90% de la population, d'où la volonté d'aller au bout de cette campagne de vaccination en essayant de convaincre les plus réfractaires. Il y a même un débat qui voit le jour en ce moment sur la possibilité de rendre obligatoire le vaccin, obligatoire au sens où il y a toute une série de choses que vous ne seriez plus amené à faire, vous n'auriez plus le droit d'aller dans tel ou tel endroit si vous n'êtes pas vacciné. On n'en est pas là, mais le gouvernement ne se prononce pas directement sur le sujet et on nous laisse comprendre que toutes les options restent ouvertes à terme sur cette question de la vaccination obligatoire.
Quelques informations en bref encore ?
Oui, info liée là encore au Covid-19, ce qui prouve bien que tout en dépend encore. Difficile de parler d'autre chose, de sortir de cette thématique. Le Conseil constitutionnel a validé la période qui doit mener à la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Cet état d'urgence sanitaire voté à l'Assemblée nationale et qui permet au gouvernement de prendre toute une série de mesures, d'imposer ces restrictions à la population. Et l'entrée en vigueur également validée par le Conseil constitutionnel du pass sanitaire à compter du 9 juin. Ce pass sanitaire, il va vous obliger, pour prendre part à une manifestation culturelle, sportive ou autre rassemblement de plus de 1000 personnes, il va vous obliger à présenter soit un certificat de vaccination, soit un test PCR négatif ou un justificatif comme quoi vous avez déjà contracter le Covid-19, ce pass sanitaire qu'il faudra par exemple montrer pour accéder à Roland-Garros au tennis à partir du 9 juin, c'est-à-dire pour les 5 derniers jours du tournoi, puisque Roland-Garros a démarré cette semaine. Et puis, oui, encore une petite info. Allez, les 20 et 27 juin prochains, les Français, ils seront appelés à voter, on en reparlera, pour les élections départementales et régionales. Mais partout, les mairies qui organisent ces élections recherchent désespérément des assesseurs, des bénévoles pour tenir les bureaux de vote. Avec la pandémie et le Covid, les gens ne veulent pas prendre de risques, passer une journée entière à manipuler les bulletins et se retrouver à prendre la carte d'identité des gens qui viennent voter, mais c'est une problématique pour organiser un scrutin. Alors on n'en est pas à se dire qu'il va falloir annuler ces élections départementales, régionales, mais il n'y a pas de secret. Pour voter, il faut des bénévoles, des volontaires pour tenir les bureaux de vote.
Merci Émile pour avoir décrypté l'actualité française. Bonne journée, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Toutes tes amies ont balancé des porcs. J'ai bien peur qu'il en reste encore. Jamais n'ai-je tenté le harcèlement.
fait de l'art seulement. Dès lors, l'homme idéal, c'est moi. Longtemps cherchais quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal, c'est moi. Tout de suite, si ce serait toi. Because l'homme idéal, c'est moi. La vie est courte, donc ça vaut et profite. L'homme idéal, c'est moi. Et ne vois pas qui d'autre à part toi.
Et voilà, le morceau qu'on vient d'entendre, c'est L'homme idéal, un titre interprété par Bertrand Burgala ici sur un remix du DJ Yuxek. Allez, maintenant, on va retrouver le chef Guillaume Brahimi. Depuis 2 ans, il nous parle de gastronomie française sur SBS en marge du Tour de France. Mais il a aussi ouvert, il y a 10 ans, le premier bistrot parisien à Melbourne. On en parle avec lui maintenant.
Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sur notre antenne le restaurateur Guillaume Brahimi. Guillaume, bonjour.
Bonjour Grégory.
Alors Guillaume, cette année, elle est un peu particulière pour vous puisque on fête les 10 ans de l'ouverture de votre restaurant qui est un bistrot à la parisienne à Melbourne.
Ah, voilà, c'est ça Grégory. Ça fait 10 ans qu'on a ouvert Bistrot Guillaume dans Crown Resort au bord de la Yarra à Melbourne, et voilà, c'est 10 ans, c'est beaucoup de services, c'est beaucoup de tartes au citron, de steak frites, et voilà, beaucoup de bons souvenirs, et c'est extraordinaire pour un restaurant. 10 ans, c'est et comme on dit en anglais, it's a good inning.
Alors, on sait effectivement que, enfin, oui, la restauration, c'est compliqué. Il y a beaucoup de restaurants aussi bien intentionnés et aussi beau soit le concept de ces initiateurs qui coulent, malheureusement, parce que c'est un créneau très concurrentiel et très difficile. Donc, félicitations d'être toujours là 10 ans après.
Merci.
Je crois que, il y a 10 ans, quand vous avez ouvert votre bistrot, un bistrot comme ça, façon parisienne, sans les serveurs mal aimables, c'était un peu le premier sur Melbourne.
Ouais, on devait être un des premiers. On voulait vraiment créer, puisque moi je réside à Sydney, je voulais créer the home away from home, c'est-à-dire ma maison quand je suis à l'extérieur, et je voulais faire mes plats préférés, les plats français préférés. Et donc, on s'est régalé à faire le menu, parce que c'est vraiment tous les plats que j'adore.
Et du coup, est-ce que vous avez l'impression que, en plantant cette graine parisienne, vous avez fait pousser d'autres restaurants, d'autres établissements qui surfent un peu sur la même vague ?
Ouais, enfin, je suis pas sûr que, sans arrogance, mais on a eu beaucoup de jeunes qui sont passés chez nous et qui ont maintenant leurs propres affaires. On est fiers du produit que l'on sert, et on est, c'est la cuisine française, c'est le cornerstone de tellement, c'est de la cuisine, quoi. Nous, ce qu'on essaie de faire, on n'invente pas grand-chose, on essaye de émouler les classiques, c'est-à-dire on essaye toujours de faire le plus beau poulet rôti de Melbourne, on essaye de faire la meilleure béarnaise, la meilleure crème anglaise. On fait les classiques, et on a énormément de chance parce que nous faisons les plats français, les plats classiques français, avec les superbes produits locaux du Victoria.
Alors, on disait tout à l'heure, le business de la restauration, c'est compliqué. Même avec les meilleures intentions du monde et le meilleur cuisinier du monde, c'est pas toujours évident de s'en sortir. L'an dernier, ça a été une période terrible pour l'ensemble du secteur. Les établissements ont été contraints de fermer pendant des mois et des mois, plus longtemps encore d'ailleurs à Melbourne que par exemple où je me trouve à Sydney. Pour vous, ça s'est passé comment ? Je vous pose la question parce que
Évidemment, on sait tout ce qu'il y a. Plein de restaurateurs qui se sont reconvertis dans la vente à emporter, notamment pour continuer à avoir un petit peu d'activité, continuer à travailler. Et j'avais discuté avec un certain nombre de restaurateurs français l'année dernière quand on était encore en plein dedans. Et plusieurs me disaient, pour nous, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, quand vous faites de la cuisine italienne ou asiatique, quelque part, enfin, c'est déjà inscrit dans leur mode de fonctionnement qu'on fait de la vente à emporter. Quand on fait de la cuisine française, un peu plus qualitative, sans paraître excessivement arrogant, ça se prête moins bien à la vente à emporter. Et du coup, beaucoup vraiment tiré la langue parce que le plan B qu'avaient trouvé la plupart des autres restaurateurs, les restaurateurs français, eux, ne pouvaient pas l'appliquer. Du coup, pour vous, ça s'est passé comment ?
Faut se réinventer, faut trouver un moyen. Nous, ce qui était très important, c'est de trouver un moyen de garder notre équipe. Donc, s'il fallait faire des lasagnes, on aurait fait des lasagnes. C'est quatre forces majeures là. On a fait des soupes à l'oignon à emporter, on a fait des poulets rôtis à emporter. Ce qui était très important pour nous, c'est de pouvoir garder notre équipe. On s'est réinventé, c'est ce qu'il faut faire en temps de crise.
Bon, et maintenant, ça y est, c'est...
Et sinon, on coule.
Ouais. Et donc, cette période est derrière vous, vous êtes reparti de plus belle et tout va bien désormais ?
Tout doucement, ça recommence. Et puis, vous savez, c'est simple ce que nous faisons. On rend les gens heureux, c'est ce qu'on essaye de faire. On fait de la cuisine et on essaye que les gens repartent avec un grand sourire.
Alors, il y a autre chose dont je voulais parler avec vous, Guillaume, puisque à côté de votre activité pure de restaurateur, depuis quelques temps déjà, vous faites profiter aux téléspectateurs de SBS pendant le Tour de France de vos connaissances et de votre savoir concernant la gastronomie française. Ouais. Et le Tour qui revient prochainement. Et vous aussi, vous revenez prochainement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre participation sur le Tour avec SBS ?
C'est extraordinaire. C'est-à-dire que nous, on n'a pas pu aller en France cette année, bien sûr. Mais on a voyagé, en choisissant des plats régionaux ou des étapes du Tour de France. Et encore une fois, nous pouvons faire de la très bonne cuisine française, des très grands classiques français avec les produits australiens. Il y a un très très bon terroir ici, donc on s'est fait très plaisir.
Et à quoi on peut s'attendre cette année ? Est-ce qu'il y aura des nouveautés où on garde la même recette qui fonctionne ?
On va se faire plaisir. Je ne veux pas vous dire ce qu'on a fait, mais on s'est fait plaisir avec des grands classiques très hivernaux. Quand nous avons fait vraiment de la cuisine automne-hiver, donc beaucoup de plats qui réchauffent.
Alors, pour revenir au bistrot Guillaume, vous parlez de l'hiver. C'est vrai que la température commence un petit peu à baisser en ce moment. Moi, mes plats français préférés, je crois que c'est des plats qu'on mange plutôt en hiver, justement. Est-ce que vous avez des choses un peu de saison à la carte ?
Oui, on suit les saisons. Le menu est dicté par les saisons. Donc là, nous commençons le céleri, les légumes, donc céleri, les topinambours, les artichauts, les stews, donc le bœuf bourguignon, le coq au vin. Le cassoulet, ce sont tous les plats que nous faisons maintenant. Et les truffes qui arrivent bientôt de Manjimup en Australie, en Western Australia. Donc, oui, bien sûr. Et en dessert, les poires, une belle tarte aux poires ou une belle poire Belle Hélène.
Oh là là, ouais.
Donc, oui, nous suivons les saisons. Donc, et l'hiver, bien sûr, ce sont des plats qui réchauffent.
Très bien. Écoutez, merci beaucoup Guillaume.
Avec grand plaisir.
Bon anniversaire à vous.
Merci, je dirai à tout le monde.
Et à bientôt sur SBS pendant le Tour de France. Merci encore Guillaume Brahimi.
Avec plaisir. Ciao.
Ciao.
Au revoir.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBSFrench. Ah!
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur ce morceau de Mori Conte qui s'intitule « Désolé ». Désolé, on l'est aussi de vous laisser, mais promis, on se retrouve très vite, dès jeudi, 13h, pour une nouvelle émission en direct. Et puis, vous pouvez aussi réécouter toutes nos émissions, nos interviews, nos reportages en podcast. Il suffit pour cela de vous abonner à notre chaîne SBS French sur toutes les plateformes de streaming audio. Passez une excellente après-midi et à très bientôt.
Partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.